Deuxième partie, gnose et poétique. Le deuxième aspect de ce commentaire traite de la gnose et de la poétique. Mais avant de poursuivre, il convient de définir le sens de ces deux termes. Pour ce qui est de la gnose, je lis dans le dictionnaire. Philosophie suprême contenant toutes les connaissances sacrées et par extension, savoir qui se donne comme le savoir par excellence. À noter que savoir s'écrirait alors avec un grand S. L'élément du grec gnosis n'est autre que l'idée de connaissance. Le terme poétique est employé dans la critique littéraire contemporaine et il a remplacé le mot style, employé jusqu'au XIXe siècle. La poétique serait un ensemble de critères et notions définissant les techniques d'écriture. Dans cette partie, il s'agit donc de voir quel est le rapport entre d'une part ce savoir spécifique, se rapportant au sacré, et les outils constitutifs de la poétique de Poe. Il peut s'agir des références extratextuelles, comme des emprunts à la gnose, au mythe, au symbolisme, à des courants de pensée dans différents domaines, ou des emprunts aux différentes influences littéraires que Poe a reçues pour ce qui est de la gnose. Mais il peut aussi être question des faits de narration, comme des articulations narratives, des distorsions temporelles dans la narration, de types de personnages narrateurs, des figures de style, des effets phoniques, du ton narratif, de l'allusion, de la connotation, du non-dit, voire de la suggestion, des modes narratifs de distance, de focalisation, pour n'en citer que quelques aspects parmi ceux de la deuxième catégorie, la poétique. Ce bref commentaire, portant sur les moyens mis en œuvre tout au long de sa production, c'est-à-dire les techniques d'écriture dont Poe fait usage dans sa poétique, a pour finalité d'aider le lecteur de Poe à comprendre dans quelle mesure cet ensemble d'outils rend compte d'une part des valeurs de cet idéal du beau et d'autre part comment est produit l'effet. Il est évident que les questions métaphysiques dans cette réflexion occupe une partie essentielle dans sa démarche. Ainsi que nous l'avons déjà vu précédemment, il y a l'influence des penseurs grecs de l'Antiquité, et en particulier les présocratiques, des références à la physique pythagoricienne, qui se caractérise par le dualisme des couples. Père, impair, clair, obscur. Lumière, ténèbres, et s'oppose de la sorte au monisme matérialiste des Ioniens. Il y a aussi cette particularité chez les pythagoriciens, qui réside à distinguer essentiellement deux régions, le céleste, où les corps formés de quintessence sont un corps incorruptible, et le subliminaire, où règne le changement, la naissance et la mort. Il y a des idées d'Héraclite d'Éphèse, notamment sur l'immortalité de l'âme. Empédocle d'Agrigente présente le développement du monde sous la forme d'un drame gigantesque. Les quatre éléments occupent la place des personnages. avec ces quatre personnages, il y aurait deux forces motrices. Ces deux forces motrices seraient la haine et l'amour. Il y aurait quatre actes par lesquels le cycle tragique du monde coule éternellement. Deux périodes de plénitude, l'empire de la haine et celui de l'amour, et deux périodes de transition, de la haine à l'amour et de l'amour à la haine. Les récits tels que Metzinger's Stein, The Black Cat, The Telltale Heart en sont quelques exemples où l'idée directrice serait celle de la haine comme force motrice de toute chose. On retrouve également des vues sur la transmigration de l'âme. Et c'est surtout avec la pensée de Démocrite que la réflexion sur l'origine et le devenir de toute chose semble prendre dans la pensée de Peu toute sa force. Chercher l'explication des phénomènes physiques et psychologiques dans des causes purement mécaniques. Il faut dire que cette pensée de l'atomiste grec fait retour au XIXe siècle, à l'époque du romantisme. On dit de Démocrite d'Abder qu'il s'était entretenu avec de nombreux gymnosophistes aux Andes et avec des prêtres en Égypte, ainsi qu'avec des astrologues et les mages à Babylone. Démocrite aurait donc fait des voyages considérables. À son époque, il représenterait la somme de la connaissance universelle, la gnose. Aussi, tout en admettant la plénitude parfaite de l'être, qu'il appellera l'atome, il dit que puisqu'il y a un mouvement, il doit exister un espace vide, ce qui revient à dire que le non-être est aussi réel que l'être. L'essence de l'âme, qui est formée de la substance la plus mobile d'atomes subtils, consiste dans la force vivifiante motrice. L'âme produit le mouvement des êtres vivants. La pensée, elle aussi, est mouvement. L'âme est la partie essentielle du corps, mais uniquement parce qu'elle se trouve être le corps le plus parfait. Enfin, Démocrite imagine, répandue à travers le monde, une âme, élément chaud et psychique, ce qu'il appelle le divin. Ce divin est une simple matière plus subtile, composée d'atomes ignés. Ainsi qu'un peu explique que Dieu se trouve diffus dans la matière et dans l'esprit, il est aisé de comprendre combien il est alors proche de Démocrite. Chez Poe, la question omniprésente est celle de l'immortalité de l'âme, sous son triple aspect que l'on pourrait résumer par la réincarnation, le double de l'âme et l'au-delà, ainsi que l'apport qui s'établit entre eux. Indéniablement, ces questions font écho au concept d'Empédocle sur la transmigration de l'âme et sur les lois cycliques de l'amour et de la haine régnant sur l'univers. Chaque récit met en place le dispositif des deux éléments qui sont mis en relation d'opposition et qui se combattent. À l'issue du combat règne l'unité. À ce stade, il n'y a plus de narration. Par exemple, dans The Mask of the Red Death, le masque de la mort rouge, ou dans Lightyear, nous retrouvons la mise en récit de cette idée. Par ailleurs, dans la construction des récits, existe également cette formule de la paire constituée par deux éléments antithétiques ou des deux parties mises en relation d'opposition. Des thèmes mythologiques ou encore des symboles construisent la situation. À partir de ceci, se font les nombreuses allusions, connotations, suggestions à des hiéros ou des hiérophanies ou des manifestations du sacré. Souvent, le protagoniste de l'histoire devient le narrateur de sa propre histoire. Cette instance est rendue à la première personne grammaticale. Par ailleurs, il est quasiment habituel que ces personnages ne portent pas de nom. Par exemple, dans le cas de MS Found in a Bottle, le manuscrit trouvé dans une bouteille, l'attention du lecteur est délibérément attirée sur cet anonymat, lequel peut s'interpréter comme une tentative de créer un châssis spatio-temporel qui ne s'inscrirait dans aucune histoire humaine, ou plutôt dans un temps et dans un espace mythique. Il est aussi à remarquer que l'évolution de ces techniques d'écriture reflète fidèlement la démarche suivie de la réflexion de Poe sur sa création. Ainsi, chacun des deux aspects antithétiques d'une donnée est traité séparément dans la linéarité du discours. Souvent, un récit est constitué de deux parties ou articulations narratives avec un milieu bien spécifié de manière à bien séparer l'un et l'autre aspect. À la fin du récit a lieu l'effacement des contraires, ce qui est spécifique à l'œuvre, et cette particularité, la construction du récit avec ses deux parties fondamentales, faisant écho à l'idée directrice qui consiste à traiter une donnée avec ses deux aspects antithétiques. De plus, le contraste de rythme narratif démarque également chacune des deux parties constitutives. La première articulation se déroule avec un certain rythme, lequel est bouleversé lors de la deuxième partie. La première est souvent lente, avec une entrée en matière, des descriptions et la mise en place des éléments narratifs. La transition vers la deuxième articulation varie d'un récit à l'autre, mais elle est toujours signalée d'une façon ou d'une autre. La deuxième partie, quant à elle, se fait sur un rythme plus accéléré, menant le lecteur vers une révélation partielle de l'énigme et traitant d'une façon ou d'une autre de l'effacement des contraires. Or, la clé de cette technique d'écriture est bien le personnage qui, ainsi qu'il a déjà été dit, ne porte généralement pas de nom et qui s'exprime à la première personne grammaticale. Il vient de faire l'expérience de quelques situations insolites et il en fait la narration sur un ton de confidence, voire de confession. Et de cette façon, il impliquerait le lecteur dans sa confession. Stratégie qui d'ailleurs mène au cœur de la stratégie esthétique de l'œuvre, car c'est dans cette relation particulière entre le personnage narrateur et son interlocuteur, le lecteur potentiel, où se produit l'effet. Ainsi, j'ai terminé avec la deuxième partie, gnose et poétique.